Bienvenue sur StratPol, nous sommes le jeudi 14 mars 2024, c'est notre bulletin numéro 177 et nous sommes encore à Paris, toujours pour continuer cette tournée pour la présentation de notre livre Ukraine. Pourquoi la Russie a gagné la suite de Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Encore une conférence en province samedi. Et puis, on a eu une conférence qui a eu beaucoup de succès à Paris. Je remercie les organisateurs. N'hésitez donc pas à vous procurer le livre, soit directement thebookedition.com ou alors sur les librairies en bas de chez vous ou que vous aimez bien, comme je cite la librairie Vincent, sur le site de TV Liberté, sur le site de contre-culture. Voilà. Procurez-vous aussi, Géopolitique Profonde, notre partenaire en matière de géopolitique, hein. Ça, c'est le numéro du mois de février. Je l'avais dit la dernière fois, un article de l'excellent Philippe Erlin sur la macroéconomie, des stratégies également de débancarisation qui sont intéressantes. Article de Caroline Garrigue-Théros, article de Laurent Ozon. Voilà. C'est une excellente lecture, et d'ailleurs en ce qui concerne Géopolitique Profonde, je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. Voilà. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, et la première question importante, concerne, comme d'habitude, l'économie. Et c'est d'autant plus important qu'on apprend que, d'après dans le New York Times, encore une fois, toujours ces sources anglo-saxonnes qui sont quand même bien plus sérieuses que notre presse nationale française, le New York Times nous apprend que les exportations chinoises repartent de plus belle, et notamment grâce à la Russie, qui est devenue le cinquième partenaire économique unique, hein, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une zone, puisque évidemment, la première zone de déploiement de l'économie chinoise aujourd'hui, c'est l'Asie du Sud-Est. Mais là, on parle de partenaire direct, et la Russie maintenant occupe la cinquième place, et c'est notamment grâce au commerce avec la Russie que la Chine, continue de pouvoir faire croître ses exportations. On apprend également toujours dans le New York Times, dans un autre article cette fois, que grâce notamment à l'action des Houthis en mer Rouge, qui empêche le passage par le canal de Suez, non seulement une partie de la cargaison, on avait parlé la dernière fois, fait le tour par le Cap de Bonne-Espérance pour pour arriver en Europe notamment, mais également ça favorise l'utilisation des routes terrestres. Alors encore une fois, je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait d'ailleurs sur RT en français, sur l'échiquier mondial, sur les nouvelles routes alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont abordés dans la presse anglo-saxonne, dans la presse également spécialisée. Donc ces routes terrestres, bien sûr, c'est des chemins de fer, c'est les routes, c'est également les axes de transit alternatifs, notamment, on a parlé de cette taxe qui part de Saint-Pétersbourg, qui suit la Volga, qui arrive à la Caspienne, qui peut soit utiliser la Caspienne, soit la contourner par la gauche ou par la droite. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le projet des routes de la soie chinoise, finalement, se révèle être, comment dirais-je, d'une vision tout à fait étonnante, et qui trouve tout son sens dans cette révision des grands équilibres internationaux, non seulement évidemment militaires, mais également économiques. Presse anglo-saxonne toujours, alors cette fois presse anglaise pour être plus précis. Cette fois c'est The Economist. Alors The Economist, comme The Telegraph, ce sont des revues extrêmement russophobes, mais cela dit, comme souvent la presse économique anglo-saxonne, ils sont réalistes et ils titrent que l'économie russe une nouvelle fois a déjoué les prophètes de malheur, et que notamment la Russie est finalement venue à bout du problème principal économique direct, qui est l'inflation. On l'avait souvent dit, il y a deux problèmes en fait pour la Russie, qui d'ailleurs sont quelquefois liés. C'est le manque de main-d'œuvre pour l'économie en plein décollage, mais c'est même pas un décollage, en phase d'hyper-industrialisation, donc elle manque de main-d'œuvre, et également c'est l'inflation, puisque notamment l'augmentation des salaires liés à cette croissance économique, joue sur les prix. Et a priori, selon The Economist, la Russie a réussi à stabiliser, l'inflation devrait se stabiliser autour de 4%, ce qui est tout à fait correct. Voilà, pas d'écroulement de l'économie russe en vue. Ceux qui se sont focalisés sur le cours du rouble, évidemment, n'ont toujours rien compris. Le problème, c'est pas le cours de la monnaie russe, le problème, c'est sa stabilité, dans la mesure où la Russie importe tout ce qu'elle veut, et notamment, et ça aussi c'était dans le New York Times, dans les exportations, l'article que j'ai cité au début de ce paragraphe, eh bien la Russie importe ses semi-conducteurs, beaucoup de ses semi-conducteurs, de la Chine. Donc ce qui lui permet eh bien de tenir le temps de cette transition où elle espère un jour devenir souveraine. Encore une fois, c'est un sujet très compliqué, ces semi-conducteurs, surtout la basse nanométrie. Mais en tout cas, la Russie veut y arriver et elle s'en donne les moyens. Notre nouvelle rubrique Empire du mensonge, et bien sûr, dans l'Empire du mensonge, on ne peut que parler de notre Premier ministre Attal, donc qui a pris la parole pour justifier la politique belliciste d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie et de cet accord qui, de toute manière, ne sert absolument à rien vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, il en a sorti des belles au niveau du mensonge. Il a été très bien devant le Parlement français, puisqu'il a dit notamment que c'était la perte de pouvoir d'achat des Français était liée à la Russie. Alors, on ne sait pas trop de quoi il parle, puisque perte de pouvoir d'achat, c'est notamment le problème de la crise énergétique, mais c'est Paris. C'est Emmanuel Macron qui a provoqué cette crise énergétique, notamment en prenant des sanctions contre la Russie, qui n'est absolument pas notre ennemi, et donc en acceptant le chantage de Washington, et ce qui fait que désormais on achète du gaz liquéfié, y compris à la Russie, mais 4 fois plus cher que ce qu'on achetait avant à la Russie. Donc c'est quand même assez gonflé. Non, la Russie n'est absolument pour rien dans l'augmentation des coûts de la vie pour les Français. C'est le régime d'Emmanuel Macron. Il faut quand même le dire et le répéter. Et alors en plus, il nous en a sorti encore une encore plus grosse. C'est-à-dire que si la Russie s'emparait de l'Ukraine, eh bien elle contrôlerait un tiers de production de céréales et qu'elle pourrait faire chanter les Français. Non, la France aussi, c'est un grand pays agricole. Et en principe, si on s'occupait de nos agriculteurs comme il le faut, c'est-à-dire si on leur réservait le marché national, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire, si on essayait d'utiliser les circuits courts, si on favorisait notre agriculture de qualité en imposant des normes strictes aux produits importés, eh bien la France serait largement autosuffisante et pourrait être totalement indépendante des prix du marché internationaux. Et d'ailleurs c'est ce que font les Russes. Quand il y a une augmentation du prix de l'essence, du prix du blé, ils arrêtent, l'État arrête les exportations. Et tout de suite, les prix rapidement, les prix redescendent. Donc, c'est évidemment, c'est parfaitement malhonnête. Hein. Il s'agit toujours, comme dirait très bien Laurent Ozon, de maintenir les populations sous stress vital, en leur faisant croire qu'il y a un ennemi qui nous menace, alors qu'il faut être vraiment complètement stupide pour croire que la Russie nous menace d'aucune façon. Voilà, ce sont eux les responsables, et évidemment, ils ont toute leur place dans l'empire du mensonge, et on peut dire que la grande majorité du groupe gaucho-centriste du Parlement français est derrière cette politique. Hein, on les a tous, c'est vraiment ce que j'ai défini, encore une fois, qui est né en avril 1792, c'est cette gauche bourgeoise qui fait la guerre au peuple français et qui fait la guerre au reste du monde. Hein. Je vous renvoie Brissot, avril 1792. On est en plein dedans. Le livre noir de la gauche française, ne l'oubliez pas. Empire du mensonge, alors je vais en parler un peu plus bas, mais je voulais quand même le citer, ce moment incroyable sur LCI qui cesse de raconter n'importe quoi sur le conflit ukrainien et qui reprend donc les articles de Marianne et qui dit en gros exactement ce que vous pouvez trouver dans Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, alors en moins bien. Bien sûr, allez acheter le livre. Et c'est ça, c'est quand même un signe des temps, puisque LCI, c'est vraiment la chaîne du mensonge, c'est la chaîne du régime d'Emmanuel Macron, la chaîne belliciste par excellence. Et visiblement, là, le moral semble être un peu affecté sur ce qui se passe réellement en Ukraine, mais on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo sur les publications de Marianne. Armement maintenant, hécatombe impressionnante au sein de l'armée otano-kievienne. On en avait parlé la dernière fois, donc deux systèmes HIMARS qui pourtant normalement se trouvent à 60-70 km du front ont été facilement repérés et détruits avec une frappe de précision russe. On avait montré ça s'est documenté, ça n'a pas été contesté. Également des systèmes Patriot qui coûtent très cher, on en serait alors deux certains, peut-être même trois. Des hélicoptères aussi qui étaient parqués sur les arrières du front qui ont été repérés et également détruits. Et puis on va le voir également sur la carte des opérations militaires, les tentatives d'infiltration à la frontière russe par les soi-disant armées libres russes, là en fait c'est les groupes néo-nazis russes qui sont réfugiés en Ukraine, renforcés par des mercenaires et des Ukrainiens. Et on le verra dans la carte des opérations militaires, les Russes ont repéré bien avant leur déploiement les unités qui devaient franchir la frontière nord russe, donc de la région de Belgorod et de Koursk, pour essayer en fait de déstabiliser la région au moment de l'élection présidentielle. Et ces unités ont subi, on va le voir, un échec significatif grâce, encore une fois, à la capacité de détection. Et ça, bon, bah, je pense que c'est lié à, encore une fois, à différents facteurs. Tout d'abord, multiplication des réseaux de résistance et de partisans en Ukraine, y compris dans l'ouest de l'Ukraine, ce qui m'a le plus surpris, hein, on en avait parlé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, amélioration des systèmes de surveillance de drones. Et puis troisièmement, on en est à plus d'une quinzaine depuis le début de l'opération militaire spéciale, ça aussi on l'avait dit, de mise en orbite de nouveaux satellites militaires d'observation dont on imagine qu'ils sont majoritairement concentrés sur le terrain ukrainien. Donc là, évidemment, défi qui doit être relevé. Alors l'Ukraine n'a pas les moyens de les relever, technologiquement, encore une fois, c'est le tiers-monde, mais évidemment, on va voir comment l'OTAN va réagir, puisque notamment la perte de 3 systèmes Patriot, c'est quand même pas rien. Armement toujours, les chars Abrams continuent d'être détruits un par un, puisqu'ils ne sont plus déployés comme je l'avais dit la dernière fois, pour faire une percée mécanisée, mais pour essayer d'apporter un soutien à l'infanterie ukrainienne. Et eh bien un autre char a été détruit, donc détruit un par un au compte-gouttes. Visiblement, Washington n'est pas très enthousiaste à les voir se déployer sur la ligne de front. Dans le même ordre d'idée, un journaliste du Sun a voulu faire un reportage sur l'utilisation du char Challenger 2 par les Ukrainiens. Et évidemment, le char s'est embourbé dans la boue, ça on en avait parlé. Hein. Alors, d'après l'article, ils le donnent pour 65 tonnes, mais en fait, dans la fiche technique, ce qu'ils ont envoyé, c'est plutôt proche de 74 tonnes, à moins qu'ils aient retiré une partie du blindage qui ne voulait pas d'ailleurs que ça tombe entre les mains des Russes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est bon, il se passe exactement ce qu'on avait dit, ces chars sont trop lourds et surtout, il a fallu envoyer un autre Challenger pour le remorquer. Et les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient exactement le même problème avec le Tigre, qui avait un canon extrêmement puissant, extrêmement efficace, le canon 88, mais le problème, c'est que, eh bien, il était trop lourd, difficile à entretenir, très fragile mécaniquement, et puis quand il s'enlisait, pareil, eh bien, il n'y avait aucun char de remorquage qui pouvait le récupérer, il fallait aller chercher un autre Tigre. Donc eh bien, finalement, rien n'a changé, et l'OTAN commet exactement les mêmes erreurs que l'armée allemande. Hypersonique pour les Houthis. Hein. Les Houthis, rappelons-le, contrôlent en fait l'accès au canal de Suez par le détroit de Bab el-Mandeb, et donc détruisent les navires qu'ils jugent liés à Israël, c'est-à-dire anglais, américains notamment, et la flotte anglaise et américaine a été déployée dans la région. Elle a été attaquée plusieurs fois également par des missiles Houthis, mais qui évidemment sont assez facilement neutralisables par la défense antiaérienne des Houthis. Et j'avais dit, suggéré, il y a dans plusieurs de mes bulletins récemment, que la réponse qui pourrait être indirecte de la Russie à l'activité des drones marins dirigés en fait par l'OTAN, ou je pense plus précisément par l'Angleterre, contre les bateaux russes en mer Noire, pourrait être de fournir des missiles qui soient capables d'atteindre ces navires américains. Et le leader des Houthis, Abdul Malik al-Houthi, a déclaré que les Houthis avaient fait des tests de missiles hypersoniques et que ça fonctionnait. C'est dans donc l'agence de presse Arian Novosti, ça a été repris dans différentes agences de presse. Alors évidemment, j'ai beaucoup d'estime pour les Houthis, mais j'ai quelques doutes sur leur capacité de développer un armement hypersonique que ni les États-Unis, ni la France, par exemple, ne possèdent. Donc j'y vois évidemment le fait que, alors je dirais pas que le Kremlin m'a écouté, je pense qu'il avait déjà l'idée derrière la tête depuis un petit moment, c'est sans doute un avertissement qui est envoyé par Moscou à Washington et à Londres, à l'OTAN, en disant attention, si jamais vous continuez à détruire nos vedettes, lance-missiles ou nos patrouilleurs en mer Noire, nous allons fournir des armes qui vont permettre aux Houthis de tirer sur et de toucher vos bateaux. La fiche technique qui est fournie, et donc avec cette affirmation donc de leadership Houthi, c'est quand même un missile qui va Mach 8. À mon avis, il n'y aura pas marqué Made in Russia dessus, mais je pense qu'il y a Personne n'a de doute là-dessus. En tout cas, c'est intéressant et ça montre que cette surexposition des armées de l'OTAN dans certaines régions du monde n'est pas forcément une bonne chose quand on veut faire la guerre à la Russie en Ukraine et en mer Noire. À suivre donc le président tchèque Petr Pavel, donc qui est, ça, comme je l'avais dit, un ancien général de l'OTAN, un espèce de satrape qui a été mis en place par Washington pour diriger la Tchéquie, donc qui a tout de suite apporté son soutien évidemment à Emmanuel Macron dans ses, au moins dans ses discours guerriers, parce que sur la réalité, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Il a annoncé depuis quelques semaines qu'il avait trouvé 800 000 obus pour fournir à l'Ukraine. Donc il en manque cruellement et qu'il avait juste besoin d'argent. Et donc a priori, il aurait trouvé cet argent, il aurait trouvé les obus. Je suis assez sceptique, c'est pas impossible. Déjà, j'aimerais bien avoir plus de précisions sur le calibre. De quel calibre parle-t-on ? Est-ce que c'est du calibre OTAN ? Est-ce que c'est du calibre soviétique, hein, 152 mm ou 155 mm par exemple ? J'ai vu dans la presse des informations contradictoires, donc on va voir. Et je suis quand même assez sceptique parce que ça suppose des entrepôts de munitions de taille significative. Alors à moins est-ce qu'il en a acheté 50 000 par-ci, 20 000 par-là, et puis comment approvisionner l'armée ukrainienne ? Donc on parle du mois de juin. Bon, en tout cas, pourquoi pas, de toute manière, encore une fois, toute aide à l'Ukraine ne lui permettra pas de gagner la guerre. Ça retardera la victoire russe, et ça la rendra à l'Ukraine encore plus coûteuse. Donc, voilà, à suivre, je ne sais pas d'où ça vient. Je lirai vos commentaires avec intérêt si vous avez des idées là-dessus. Considération militaire générale, et j'ai commencé évidemment par une petite réduction ad Hitlerum, hein, comme d'habitude. Non, plus sérieusement, en fait, j'ai voulu réagir à ce parallèle systématique qui est fait entre donc Munich, lorsque les Français refusent avec les Anglais de venir au secours de la Tchécoslovaquie, qui finalement sera bien sûr dépecée par Hitler, et la Pologne et la Hongrie, ça on oublie souvent de le rappeler, surtout du côté polonais, on l'oublie. Et donc on explique que le fait de ne pas vouloir aider l'Ukraine, de ne pas vouloir faire la guerre à la Russie, c'est faire comme à Munich. Alors, c'est totalement faux. La première chose, c'est que à Munich, on aurait pu faire quelque chose. On avait une armée, on pouvait mobiliser, comme on le fera d'ailleurs, jusqu'à 3 millions, plus de 3 millions de soldats. On avait, encore une fois, une véritable armée. En plus, Hitler n'était pas encore monté en puissance comme il le montra en 1939 et surtout en 1940 avant la bataille de France. Donc, c'est pas du tout la même chose. Là, en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on peut pas. Donc ça n'a rien à voir avec Munich, c'est absolument ridicule. Et en revanche, la comparaison qu'on peut faire, si on veut absolument faire une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'envoi de forces françaises pour aider l'Allemagne nazie sur le front, alors que la bataille est perdue. Donc, pour petit rappel historique au passage, donc en juin 1941, création de la LVF, la Légion des Lois Terres Français, et Marcel Déa et Pierre Laval accompagnent sur le départ du train, donc au départ du train de cette LVS. Donc, ces deux socialistes-là accompagnent la LVF pour partir sur le front de l'Est, et se font d'ailleurs tirer dessus par un nationaliste, un militant nationaliste, Paul Colette, hein, qui sera gracié, il faut le dire, il était gracié par Laval lui-même. Surtout, en fait, c'était très gênant pour la propagande à la fois de la résistance communiste et à la fois de Vichy, c'est-à-dire que, en fait, ça montrait que les nationalistes français étaient contre Vichy, et ça montrait que c'était pas les communistes, en fait, qui avaient commis cet attentat contre Laval et contre Déa. Donc ça, c'est au passage, mais je dirais, encore envoyer des forces pour soutenir l'effort de guerre allemand contre l'URSS avait un sens militaire en août 1941, parce que l'armée allemande avançait beaucoup moins vite qu'elle le pensait. D'ailleurs, Barbarossa finira par échouer devant Moscou. Mais globalement, ça, on pouvait imaginer encore que l'Allemagne pouvait l'emporter. Donc ça me fait davantage penser à la brigade Frankreich en octobre 1943, c'est-à-dire après la défaite de Stalingrad, après la défaite de Koursk, où tout espoir de gagner pour l'Allemagne est perdu. Et c'est là que se forme la brigade Frankreich, et donc qui deviendra division Charlemagne et qui finira à Berlin. D'où le titre de cette petite vignette, merci à toi Étienne, c'est-à-dire Munich 1938 ou Berlin 1945. Ce qu'on fait là, en fait, c'est Berlin 1945. Parce que l'Allemagne a perdu la guerre en 1943, de la même manière que l'Ukraine l'a perdue en 2022, en février 2022. Et envoyer des soldats français ou quoi que ce soit pour aider l'Ukraine ne changera absolument rien, encore une fois, à la victoire russe. Ça ne fera que prolonger la souffrance de ces malheureux Ukrainiens qui se rendent compte d'ailleurs petit à petit qu'ils se sont fait un petit peu manipuler. Voilà donc pour la vignette et pour la petite réduction ad hitlérum du bulletin 177. Certains m'ont posé quelques questions sur la stratégie nucléaire, notamment j'ai cité les quatre généraux de l'Apocalypse, dont Lucien Poirier qui parle du pouvoir rationalisant de l'atome. Alors si ça vous intéresse, puisque vous m'avez demandé, je vous recommande Lucien Poirier, les stratégies nucléaires. Alors bon, ça je l'avais acheté d'occasion déjà quand je préparais ma maîtrise sur le sujet, donc prix Vauban 1978. Mais du point de vue de la stratégie nucléaire, notamment sur la qu'est-ce que c'est que la dissuasion du faible au fort, qui était la doctrine française à l'époque, qu'est-ce que c'est que le fait même de dissuader, cette idée que il faut que l'ennemi se dise que il gagnera, ce qu'il gagnera à nous attaquer ne vaut pas tout ce qu'il va perdre, étant donné qu'on va lui tirer des missiles nucléaires dessus. Donc voilà. Toute la stratégie française qui était très bien pensée, hein, on avait, c'est pas du tout Rakovlev, hein, c'était Poirier, Beaufre, Gallois, c'était quand même des personnages, des généraux remarquables qui savaient écrire en plus avec des références philosophiques. Quand on regarde du Rakovlev d'un côté, on lit les stratégies nucléaires de Lucien Poirier, on se dit qu'effectivement, comme dans plein de domaines, c'était mieux avant. Et je reviens donc sur le sujet donc, qui a été repris par LCI, mais qui en fait est une publication d'articles dans la revue Marianne. Et donc ce sont des articles qui font état de rapports Secret Défense sur la réelle situation du conflit ukrainien. Et honnêtement, c'est du stratpol. C'est-à-dire, on nous explique, non, finalement, les Russes s'occupent bien de leurs soldats, ils les font tourner pour qu'ils puissent récupérer. Ils pratiquent l'amalgame entre les anciens expérimentés et les jeunes recrues. Ils sont bien formés, alors que du côté ukrainien, ils sont formés à la va-vite et ils sont pas efficaces. La planification stratégique du côté des Otanoukhaviens était nulle. Et en fait, là, l'Ukraine n'a aucune chance de gagner. Ils annoncent même 400 000 hommes perdus par an par l'Ukraine. Alors ça, j'ai pas trop. Ça me paraît quand même énorme. Même blessés graves et morts, 400 000, ça ferait 800 000. Bon, si c'est ça, c'est épouvantable, mais ça me paraît un peu élevé. Et il souligne également, pour revenir aux questions de l'armement, la supériorité du matériel russe, mieux adapté, plus rustique et facile à entretenir. Donc en fait, on est dans sur les questions militaires, on est dans du stratpol. Ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ça a fuité? Et mon petit doigt me dit que c'est un peu pour la même raison que l'enregistrement des généraux de la Bundeswehr qui expliquent qu'ils vont livrer des taux russes pour pouvoir détruire le pont de Crimée. En gros, pour être certain que Scholz ne soit pas tenté de le faire. Et je pense que c'est pareil. Je pense que ces fuites sont organisées par l'armée française, parce qu'elle est humiliée de l'image que donne d'elle sur les plateaux télé, les gamelins de plateau. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai souvent critiqué en me disant, mais si ces gens comme Dourakovlev, le colonel Goya, général Desportes, qui ont eu des responsabilités à l'école de guerre, qui sont incapables de comprendre le principal conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans ce cas, c'est que c'est grave et que pour refaire une réduction ad hitlérum, du point de vue de la pensée stratégique et militaire, on est dans les années 30. Et je pense que c'est finalement pas le cas au sein de l'état-major. J'ai eu plusieurs échos qui me sont revenus en disant que ces gens-là, Dourakovlev, Goya, ne représentent pas l'armée française. Et je pense que cette fuite, c'est pour montrer à la population française que non, l'armée française, l'état-major, a parfaitement analysé la guerre et que finalement elle ne croit pas à la victoire de l'Ukraine, qu'elle connaît les failles de l'armée ukrainienne et les qualités de l'armée russe. Donc je trouve ça plutôt positif. Ce qui est intéressant aussi, et c'est le sens de l'article de Marianne, c'est de dire, dans ce cas, Emmanuel Macron est au courant. Alors, est-ce que c'est ça qui, tout d'un coup, l'a poussé à dire, attention, faut partir faire la guerre à la Russie, devant la défaite annoncée de Kiev? Oui et non. Le problème de l'intervention de la France, c'est pas de le vouloir ou de pas le vouloir, c'est on ne peut pas, on n'a pas d'armée capable d'aller affronter l'armée russe. Depuis François Mitterrand, l'armée française est détruite, petit à petit, année par année, avec la bénédiction de tous les chefs d'état-major qui se sont succédés, sans que jamais un seul ne donne sa démission devant la destruction de notre outil de défense, donc on ne peut rien faire. Alors on me dirait, tant mieux, au moins on n'ira pas faire la guerre contre les Russes. Oui, ça je suis d'accord avec ça. Mais au-delà du conflit entre l'OTAN et la Russie, la souveraineté passe aussi par la possession pour une nation d'un outil de défense performant. Donc à la fois le côté militaro-industriel, où on arrive à faire des miracles malgré 50 ans de socialisme, et puis au niveau de l'armée, où là on le voit, ces problèmes de recrutement, qui sont déjà, parce que moi je pense que les militaires, notamment les jeunes sergents, les militaires du rang, ne sont pas assez payés, donc en plus on peut pas sélectionner. Donc le niveau de ce que me disent mes camarades qui sont encore dans l'armée est épouvantable. Et donc on a vraiment un problème militaire. Et à côté de ça, évidemment, des missions nulles, comme par exemple le Sentinelle, hein, ancien vigipirate à mon époque. Donc c'est pas la mission de l'armée, elle n'a pas à faire ça. Et donc ce qui fait qu'on n'arrive plus à recruter et qu'on détruit notre outil de défense. Et d'ailleurs, de ce que je vois, c'est que les 15 000 hommes que le général Chauvency pensait que la France pourrait peut-être envoyer en Ukraine, en fait, là, ils vont partir s'occuper des Jeux Olympiques. Notre armée sert à organiser les Jeux Olympiques. Donc, c'est lamentable. Voilà. Et ça, la responsabilité, elle est totale. C'est le régime socialiste, c'est cette gauche bourgeoise qui dirige le pays depuis plus de 50 ans. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors, ça va être assez rapide parce que la carte n'a pas beaucoup bougé du point de vue de la ligne de front. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des combats, mais la carte n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu des tentatives d'infiltration et de coups de main. Le premier, eh bien, c'était les Russes qui ont réussi une belle opération commando qui a consisté à traverser le pont d'Antonovka, ici, et donc d'aller détruire des installations, des systèmes de brouillage de guerre électronique, et il y a une trentaine de pertes du côté kievien. Donc une opération qu'on a plutôt l'habitude de voir du côté menée par des Ukrainiens, et là c'est les Russes qui l'ont fait, mais évidemment il n'y a pas d'idée, contrairement à Kiev, de prendre d'essayer de former une tête de pont, c'est évidemment pas réalisable. Donc juste un coup de main, voilà, ça s'est bien passé pour les Russes. Ça s'est en revanche très mal passé pour les Kieviens, qui ont tenté, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour troubler le bon déroulement des élections, de lancer des opérations militaires dans la région de Koursk, à cet endroit-là, et dans la région de Belgorod, à cet endroit-là. Alors c'est toute une opération de propagande qui a été mise en place, puisque évidemment, quels qu'aient été les succès de cette opération, il est impossible pour Kiev de prendre du territoire à la Russie à cet endroit-là, mais il s'agissait de faire comme l'été dernier, c'est-à-dire d'envoyer des unités pour occuper un village, tuer quelques villageois, et puis rentrer après avoir planté le drapeau de la soi-disant armée libre russe, ou le drapeau ukrainien, ou tout ce que vous voulez. Et ils se sont vantés, et ça a fait beaucoup rire le net, ils se sont vantés de s'être emparés du village de Tietkino, ici, à cet endroit-là, en publiant une vidéo, et qui s'est avérée, après avoir été, pardonnez-moi pour l'anglicisme, débunkée, qu'en fait, ils l'avaient prise à l'intérieur de ce village en territoire ukrainien. Donc l'opération s'est poursuivie sur plusieurs jours, et alors qu'il est complètement échoué, et les unités kieviennes ont subi de lourdes pertes, notamment du point de vue des véhicules, parce que contrairement à l'été dernier, il y avait des chars de bataille, il y avait des blindés d'infanterie, des Bradley notamment, et tout ça a fini pulvérisé à distance d'ailleurs par les canons russes. Voilà, donc ça a échoué dans la région de Koursk, à cet endroit-là. Et ça a échoué notamment au poste de douane ici, donc au niveau de ce poste frontière russe, où les troupes otano-kieviennes ont été prises à découvert et ont été détruites. Dans la direction de Kharkov, donc autour de la ville de Kupiansk, autour du front, autour des villes de Terné, pour l'instant le front est stable. Les Russes continuent de pousser, mais il n'y a pas eu de progression significative. Le front semble s'activer de plus en plus autour de Seversk, du côté de Sporno, du côté de Belogorovka, mais là aussi, on ne voit rien bouger sur la carte. Ça, je l'avais montré la dernière fois, les Russes ont continué à avancer sur Ivanovskoye, donc le village juste avant Tchassofyar. La prise d'Ivanovskoye a été annoncée il y a 2-3 jours, mais il s'est avéré que c'était faux. Les Russes poussent également du côté de Kleshevka, mais pour l'instant, rien de significatif à noter sur la carte. Finalement, le seul endroit où ça a avancé de manière indiscutable, c'est la prise de la localité de Nevelskoye, ici, à cet endroit-là, donc au sud de Pervomaïsk. Donc ça va permettre aux Russes à la fois de progresser sur Pervomaïsk, mais également sur Krasnogorovka, hein, puisque pour l'instant, les Russes sont en train d'attaquer par le sud, la résistance kievienne est importante. Et là, ça permettrait évidemment d'attaquer par le nord. Autour de Pabieda, mais surtout de Novomikhailovka, les combats font rage, mais pour l'instant, pas de progression significative. Activation du front également du côté de Staromikhailovka, mais rien de significatif sur la carte. Ici aussi, à cet endroit-là, on en avait parlé, les Russes ont légèrement avancé. Et là, ça serait intéressant pour les Russes parce que ça leur permettrait d'avancer sur les hauteurs dans la zone. Et donc, on l'avait dit, les Kieviens, en urgence, tentent de construire des lignes de défense puisque, évidemment, Zaporojye, la capitale de la région, pourrait être menacée par l'armée russe. Malgré la présence de l'AIEA, les Kieviens ont recommencé à bombarder la centrale nucléaire d'Energodar. Pour l'instant, pas d'incident nucléaire à signaler. Voilà la situation au 14 mars 2024. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos canaux Odyssée, Rumble, Telegram, Twitter. On va dépasser a priori les 80 000 abonnés sur Twitter bientôt. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour que la semaine prochaine on puisse fêter ça dignement. Voilà, la conférence privée, donc pour nous abonner sur le canal Telegram payant, PayPal, Tipeee, etc. aura lieu la semaine prochaine, puisque c'est trop compliqué pour moi de faire ça de Paris. Donc désolé pour ce retard, mais elle aura évidemment bien entendu lieu la semaine prochaine. J'enverrai le lien à nos sponsors, mais que je remercie d'ailleurs au passage. Sans eux, rien ne serait possible. En tout cas, comme vous le voyez, les nouvelles sont bonnes, donc courage, on les aura.